Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Mistral et vous écoutez l'émission Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs, tu as toujours le choix de laisser entrer la lumière ou garder les volets fermés. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs.
Ici, Votre Majesté, nous avons un petit phénomène. Un remarquable enfant de 10 ans.
Ah.
Un spécialiste de l'histoire et le rédacteur en chef de notre journal.
Ah, très intéressant.
Sire, je vous présente Rupert, notre jeune journaliste.
Enchanté, Rupert.
Enchanté.
Alors, asseyez-vous. Dites-moi, qu'est-ce que vous lisez, là ?
Karl Marx.
Se peut-il que vous soyez communiste ?
Est-ce que j'ai besoin d'être communiste pour lire Karl Marx ?
Rupert.
La réponse est sensée. Eh bien, si vous n'êtes pas communiste, qu'est-ce que vous êtes ?
Je ne suis rien.
Rien ?
Je déteste toutes les formes de gouvernement.
Mais il faut bien quelqu'un pour gouverner.
Et je déteste le mot « gouverner ».
Eh bien, si le mot vous est tellement odieux, disons qu'il faut des chefs.
Tous les chefs de gouvernement représentent le pouvoir. Et en politique, le pouvoir est forcément une forme de la lutte contre le peuple.
À propos, qu'est-ce qu'il écrit dans son journal ?
Des commentaires sur les événements courants. Pardonnez-moi, Votre Majesté.
Mais mon cher enfant, la politique est une nécessité.
La politique est une règle que l'on impose au peuple.
Oh, enfin, dans ce pays, nulle règle n'est imposée. Chacun exprime le vœu de citoyen libre.
Promenez-vous un peu et vous verrez comme ils sont libres.
Oui, mais laissez-moi parler.
Et si on met tout le monde dans une camisole de force ? Et si on n'a pas de passeport, on ne peut pas faire un pas ?
Mais enfin, laissez-moi
parler. Dans ce monde libre, on viole les droits naturels de tous les citoyens.
Voyons, laissez-moi
parler. Ils sont devenus des hommes aux mains de politiciens despotiques.
Oui, mais pour...
Et si on ne pense pas comme eux, on vous prive de votre passeport.
Voulez-vous...
Quitter le pays est plus dur que de s'évader de prison.
Oui,
changer de pays est plus dur que de passer par le trou d'une aiguille.
Mais si
Suis-je libre de voyager ?
Oui, vous êtes libre de voyager.
À condition d'avoir un passeport.
Voulez-vous me laisser parler ?
À condition d'avoir un passeport.
Mais...
Les animaux ont-ils besoin de passeport ?
Enfin, avez-vous terminé ?
C'est scandaleux de penser qu'à l'âge de la vitesse atomique, on ne peut pas circuler si on n'a pas de passeport.
Si vous laissiez parler un peu les autres...
Et la liberté de parole existe-t-elle ?
Non, pas avec vous.
Et la libre entreprise ?
Oui, mais nous parlions de passeport.
Aujourd'hui, tout est monopole.
C'est ça. Est-ce que vous voulez...
Est-ce que j'ai le droit de fabriquer des voitures et de concurrencer le trust de l'auto ?
Si je pouvais dire un mot !
Rien à faire ! Et j'ai le droit de me mettre dans l'épicerie et de concurrencer les grossistes ?
Vas-tu te taire !
Rien à faire ! Le monopole est la menace qui pèse sur l'entreprise. Quand je remonte 60 ans en arrière.
Où étais-tu il y a 60 ans ?
Ton grand-père jouait encore au billes.
Eh bien maintenant, as-tu fini ? Alors, laisse-moi parler. Laisse-moi te montrer à quel point tu as tort. Pour commencer... Pour commencer... Ça y est, j'ai oublié ce que je voulais dire.
Et la bombe atomique ?
Ah...
C'est un vrai crime qu'au moment où le monde a un besoin impérieux d'énergie,
oui.
Vous vouliez faire des bombes atomiques.
Moi ? Je suis contre les bombes atomiques.
Vous voulez faire périr la civilisation, détruire toute vie sur la planète. Vous vous croyez encore au 19e siècle ?
J'ai perdu mon trône parce que j'ai refusé la bombe atomique.
Vous et vous semblables croyez que la bombe atomique résoudra vos problèmes.
Écoute, sale mioche.
Les hommes ont beaucoup trop de pouvoir. L'Empire romain s'est effondré lors de l'assassinat de César. Et pourquoi? Parce qu'il était devenu trop fort. La féodalité a été balayée par la Révolution française. Et pourquoi? Parce qu'elle était devenue trop fort. Et aujourd'hui, tout le monde va exploser. Et pourquoi?
Parce qu'il est devenu trop fort.
Le monopole du pouvoir menace la liberté. Il dégrade l'individu dont il fait sa victime. Où est maintenant l'individu?
Je n'en sais rien.
Il vit dans la terreur parce qu'on l'a obligé à haïr au lieu d'aimer. Si la civilisation doit survivre, nous devons combattre le pouvoir jusqu'à ce que la dignité et la paix humaine soient rétablies.
Et que signifie tout cela?
Ma toque.
Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, Sir Loup lui fait volontiers, mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire.
Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi,
lui répartit le chien.
Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils sont misérables, cancre, air et pauvre diable, dont la condition est de mourir de faim, car quoi? Rien d'assuré, point de franche lipée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin.
Le loup reprit.
Mais que me faudra-t-il faire? Presque rien,
dit le chien.
Donner la chasse aux gens, portant bâton et mendiant, flatter ceux du logis, à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera fort ce relief de toutes les façons. Os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses.
Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé.
Qu'est-ce là?
Lui dit-il.
Rien. Quoi? Rien. Peu de choses. Mais encore. Le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez, est peut-être la cause. Attaché?
Dit le loup.
Vous ne courez donc pas où vous voulez? Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte et ne voudrais pas même à ce prix un trésor.
Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore.
Oh, Tu paieras ta télévision avec tes gauloises manquées. Tu paieras ton lapin vision à la sociale sécurité. T'enverras des fleurs à ta mère avec le reste de tes soucis. Tu mettras de l'eau dans ton verre, le vin ça fout la maladie. Mais faut jamais, même en rêve, faut jamais faire la grève. Tu passeras à la fin du mois, prier Notre-Dame des petits fours. Si par hasard tu n'as plus de croix, on te refilera une croix de secours. Ça monte tout droit comme la fumée des hauts fourneaux, à moins qu'il y ait le vent qui passe par là. Alors t'as prié pour la peau. Mais faut jamais, même en rêve, faut jamais faire la grève. T'auras du foin chez ton tabac, t'auras de l'avoine pour tes deux chevaux, en disant comme les Auvergnats, ces chèles que j'aime pour mon bestiau. Tu prendras ta femme dans tes bras, du moins ce qu'en ont laissé les gosses, que tu lui fais tous les 10 mois, faut bien 30 jours pour faire la noce. Mais faut jamais, même en rêve, faut jamais faire la grève. Quand t'auras le temps, t'iras voter en montrant tes papiers de souverain pour envoyer ton député faire les conneries que tu ferais bien. Si par hasard on te fait savoir que le pain, le boulot, la liberté se sont fait faire sur le trottoir comme une gonzesse, t'auras gagné. Alors des fois, même en rêve, tu pourrais peut-être faire la grève.
Pauvres et misérables peuples insensés, nations obstinées dans votre mal et aveugles à votre bien, vous vous laissez priver du plus beau et du plus clair de votre revenu. Vous laissez piller vos champs, voler vos maisons et les dépouiller des meubles anciens de vos pères. Vous vivez de sorte que vous ne puissiez rien revendiquer à vous. Et il semblerait que ce soit désormais un grand bonheur pour vous d'avoir vos biens, vos familles et vos vies en location. Or, tous ces dégâts, ce malheur, cette ruine, ne vous viennent pas des ennemis, mais bien de l'ennemi que vous faites aussi grand qu'il est, pour lequel vous allez si courageusement à la guerre, pour la grandeur duquel vous ne refusez point de risquer la mort. Celui qui est votre maître n'a pourtant que deux yeux, deux mains, un corps, et rien d'autre que ce dont dispose n'importe quel habitant du grand nombre, infini de vos villes, rien d'autre que l'avantage que vous lui donnez pour vous détruire. Où donc a-t-il pris tant d'yeux par lesquels il vous épie, si vous ne les lui donnez? Comment se fait-il qu'il ait tant de mains pour vous frapper, s'il ne les tient de vous? Les pieds dont il foule vos cités, où les a-t-il trouvés, si ce ne sont pas les vôtres? A-t-il du pouvoir sur vous, si ce n'est pas vous? Comment oserait-il vous assaillir s'il ne s'était entendu avec vous? Que pourrait-il vous faire si vous n'étiez les receleurs du bandit qui vous pille, les complices du meurtrier qui vous tue et les traîtres envers vous-même? Vous semez vos fruits afin qu'ils les détruisent. Vous meublez et remplissez vos maisons afin de subvenir à ces pillages. Vous élevez vos filles pour qu'il ait de quoi satisfaire sa luxure. Vous élevez vos enfants afin que, dans le meilleur des cas, il les amène à ses guerres, qu'il les conduise à la boucherie, qu'il en fasse les ministres de ses convoitises et les exécuteurs de ses vengeances. Vous tuez à la tâche vos personnes afin qu'ils puissent être comblés de délices et se vautrer dans les salles et les vils plaisirs. Vous vous affaiblissez afin de le rendre plus fort et dur, qu'il puisse vous tenir la bride plus courte. Et de tant d'indignité que même les bêtes ne sentiraient ou n'endureraient pas, vous pouvez vous délivrer. Si vous essayez non pas de vous délivrer, mais seulement d'en avoir au moins la volonté, soyez résolus à ne plus servir. Et vous voilà libre. Je ne veux pas que vous le poussiez ou l'ébranliez, mais seulement que vous ne le souteniez plus. Alors vous le verrez, tel un grand colosse à qui l'on a ôté son socle, ployé sous son poids, est tombé en morceaux.
Par la terreur de tous les chenapans de bouche. jaune, palais de rois et d'empereurs. Oui, mais ça rend le don, le manche des mauvais jours finiront. Et gare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Voir des eaux bénites, les troncs vont faire un argent fou. Dès demain en réjouissance, et Saint-Eustache et l'Opéra vont se refaire concurrence, et le bagne se peuplera. Oui, mais ça rend le don, le manche des mauvais jours finiront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Demain les Manon, les Lorettes et les dames des beaux faubourgs porteront sur leurs collerettes des chasse-pots et des tambours. On mettra tout au tricolore, les plats du jour et les rubans, pendant que le héros Pandore fera fusiller nos enfants. Service et le pistolet en sautoir, sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuplés, des curés. Oui, mais ça va le temps, le manche des mauvais jours finiront.
Un truc pour la fin.
Tout d'abord, il est certain, à mon sens, que si nous vivions avec les droits que la nature nous a donnés et d'après l'enseignement qu'elle nous livre, nous serions naturellement obéissants envers les parents, sujets de la raison et serfs de personne. Tout le monde est témoin de l'obéissance que chaque individu, par le seul conseil de sa nature, témoigne à ses pères et mères. Pour ce qui est de la question profondément discutée par les académiciens et par toute l'école des philosophes, de savoir si la raison est innée ou non, pour l'heure je ne pense pas me tromper en disant qu'il y a dans notre âme un germe naturel de raison qui, entretenu par de bons conseils et de bonnes habitudes, devient vertu, ou au contraire, plus faible souvent que les vices qui surviennent, s'étouffent et avortent. Mais à coup sûr, s'il y a bien une chose claire et apparente dans la nature, et où il ne soit pas permis de faire l'aveugle, c'est que la nature, ministre de Dieu, gouvernante des hommes, nous a tous faits de même forme, et semble-t-il, à partir du même moule, afin que nous nous reconnaissions tous comme compagnons, ou plutôt comme frères. Et si en partageant les cadeaux qu'elle nous faisait, elle a avantagé certains, plus que d'autres, par le corps ou par l'esprit, du moins, elle n'a pas voulu nous mettre au monde comme dans un camp clos, Et elle n'a pas envoyé ici-bas les plus forts et les plus avisés, comme des brigands armés dans une forêt, pour y réprimer les plus faibles. Bien au contraire. Il faut croire qu'en faisant ainsi des parts plus grandes et des parts plus petites, elle voulait ménager une place à l'affection fraternelle, afin que l'on puisse l'exercer, les uns pouvant donner leur aide et les autres ayant besoin de la recevoir. Ainsi donc, puisque cette bonne mère nous a donné à tous la terre entière pour y habiter, puisqu'elle nous a tous logés dans la même maison, qu'elle nous a tous façonnés sur le même modèle, afin que chacun puisse se voir en miroir et presque se reconnaître l'un dans l'autre, si elle nous a fait à tous ce précieux cadeau de la voix et de la parole pour nous lier ensemble et fraterniser davantage et unir nos volontés par l'échange mutuel de nos pensées, et si elle a tâché par tous les moyens de serrer et d'éteindre si fort le nœud de notre alliance en société, si elle a monté en toute chose qu'elle voulait moins nous faire tous unis que tous un, il est clair alors que nous sommes naturellement libres, puisque nous sommes tous compagnons, et il ne peut venir à l'idée de personne que la nature ait mis qui que ce soit en servitude, alors qu'elle nous a mis en compagnie les uns avec les autres. »
Il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Au fond de ma cour, je suis renommé. Au fond de ma cour, je suis renommé. Renommé pour avoir le cœur mal famé, le cœur mal famé. Au bois de Vincennes, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Quand il n'y a plus de vin dans mon tonneau, quand il n'y a plus de vin dans mon tonneau, dans mon tonneau, ils n'ont pas peur de boire mon eau, de boire mon eau. Au bois de Meudon, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Il m'accompagne à la mairie, il m'accompagne à la mairie. À la mairie, chaque fois que je me marie, que je me marie. Au bois de Saint-Cloud, il y a des petites fleurs, il y a des petites fleurs, il y a des copains. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur. Chaque fois que je meurs fidèlement, chaque fois que je meurs fidèlement, fidèlement, ils suivent mon enterrement, mon enterrement. Des petites fleurs, des petites fleurs. Oh, au bois de mon cœur, oh, au bois de mon cœur.
Thank you.
Mais, à vrai dire, il est inutile de discuter pour savoir si la liberté est naturelle, puisqu'on ne peut tenir personne en servitude sans lui faire tort, et qu'il n'y a rien d'aussi contraire à la nature, tout raisonnable, que l'injustice. C'est donc que la liberté est naturelle. Et de la même manière, à mon avis, c'est donc que nous ne sommes pas seulement nés dans l'indépendance, mais encore que nous avons pour mission de la défendre. Or, si jamais nous en doutons, si nous sommes trop dégénérés pour reconnaître nos biens et nos penchants naturels, il faudra que je vous rende l'honneur qui vous revient et que je fasse venir, pour ainsi dire, les bêtes brutes à la chair, afin qu'elles vous apprennent votre condition naturelle. Si les hommes ne font pas trop les sourds, que Dieu m'aide, ils entendent les bêtes leur crier « Vive la liberté !» Plusieurs d'entre elles meurent aussitôt qu'elles sont prises, comme le poisson quitte la vie en même temps que l'eau. De même, elles quittent la lumière et ne veulent pas survivre à leur indépendance naturelle. Si les animaux avaient quelques privilèges les uns sur les autres, ils feraient de celui-là leur titre de noblesse. Les autres bêtes, qui sont prises, des plus grandes jusqu'aux plus petites, livrent une telle résistance à coups d'ongles, de cornes, de bec et de pieds, qu'elles montrent clairement le prix donné à ce qu'elles perdent. Puis, étant prises, elles nous donnent tant de signes évidents de la conscience qu'elles ont de leur malheur, qu'on peut voir qu'elles languissent plus qu'elles ne vivent, et qu'elles continuent à vivre pour regretter leur bonheur perdu plutôt que pour se complaire à la servitude. L'éléphant qui, s'étant défendu jusqu'au bout, ne voyant plus de raison de poursuivre la lutte, sur le point d'être pris, enfonce ses mâchoires dans les arbres et s'y casse les dents, que fait-il sinon témoigner que le grand désir qu'il a de demeurer libre, comme il est, lui donne de l'esprit et lui inspire de marchander, avec les chasseurs, au cas où il en serait quitte, à perdre ses dents, au cas où il pourrait donner son ivoire et payer cette rançon en échange de sa liberté. Nous appâtons le cheval dès sa naissance pour l'habituer à servir. Toutefois, nos flatteries ne l'empêchent pas de mordre le frein et de ruer contre l'éperon lorsque nous voulons le dompter. Il semble qu'il s'adresse à la nature pour lui montrer au moins que s'il sert, ce n'est pas de son plein gré, mais parce que nous l'y forçons.
Ceasefire.
Ireland. Freedom.
Freedom. Let's talk about freedom. Freedom! Let's talk about freedom. Freedom to choose, baby. Freedom to lose. Freedom to love who you want, baby. Freedom to love God above. God above, baby, come on. Talk about freedom, talk about freedom. Talk about freedom, talk about freedom. Talk about freedom, talk about freedom. Freedom, yeah! Peace. Freedom is great.
across the European East.
I want some freedom to smoke some herb.
Smoke some herb.
I want some freedom to do what I want.
Do what I want, baby.
Freedom to cry.
Freedom to cry. Freedom to lie.
Freedom to lie.
Freedom to lie.
Freedom of love, baby.
Love, baby. Love, baby.
Freedom of love.
God above. God above.
God above, baby. Come on.
Songs about freedom, yeah.
This song's about freedom,
yeah.
This song's about freedom,
yeah.
Freedom,
freedom,
yeah.
Freedom!
Il y a trois sortes de tyrans. Les uns jouissent du royaume par l'élection du peuple, les autres par la force des armes, les autres par la loi de succession familiale. Le comportement de ceux qui l'ont acquis par le droit de la guerre montre bien qu'ils sont, comme on dit, en terre de conquête. Ceux qui naissent rois ne valent d'ordinaire guère mieux. Nés et élevés dans le sein de la tyrannie, ils tirent avec le lait de la nature du tyran et regardent les peuples sous eux comme s'ils étaient leurs serfs héréditaires. Selon leur tempérament, avare ou prodigue, tels qu'ils sont, ils se comportent avec le royaume comme s'ils l'avaient en héritage. Celui à qui le peuple a donné l'État devrait être, me semble-t-il, plus supportable. Et je crois qu'il le serait, en effet, s'il ne prenait la décision de ne plus bouger dès lors qu'il est élevé au-dessus des autres, flatté par ce je ne sais quoi qu'on appelle la grandeur. Souvent, il a l'intention de transmettre à ses enfants la puissance que le peuple lui a laissée. Et dès qu'il s'est mis cette idée en tête, il est incroyable de voir comme il surpasse les autres tyrans en toutes sortes de vices, même en cruauté. Il ne voit d'autre moyen d'assurer la tyrannie nouvelle que d'étendre la servitude et d'éloigner les sujets de la liberté à un point tel que même si le souvenir de la liberté est encore frais, ils peuvent le perdre. Ainsi, en vérité, je vois bien qu'il y a des différences, mais je ne vois aucun choix à faire entre ces maux. Si les moyens d'arriver sur le trône sont divers, la façon de régner, elle, est presque toujours la même. Les élus traitent le peuple comme des taureaux à dompter. Les conquérants en font leur proie, les successeurs pensent en faire leur esclave naturel.
Le roi danse. Donnez la plus belle musique du monde au dieu Jupiter, maître de l'univers.
Mais à ce propos, si par hasard il naissait aujourd'hui des gens tout neufs, qui ne soient ni habitués à l'asservissement, ni attachés à la liberté, s'ils ne connaissaient rien de l'un et de l'autre que le nom, si on leur offrait soit d'être serfs, soit d'être indépendants, selon les lois qui leur conviendraient, sans aucun doute, il préférerait obéir à la seule raison plutôt que d'être au service d'un homme. Mais à coup sûr, tous les hommes, tant qu'ils ont quelque chose d'humain, ne se laissent assujettir que pour deux raisons. Par contrainte ou par tromperie. Contraint par des armes étrangères, comme Sparte ou Athènes, par les forces d'Alexandre, ou par les factions, tel le gouvernement d'Athènes qui tomba dans les mains de Pisistrate. Ils perdent souvent leur liberté parce qu'on les a trompés, et moins souvent d'ailleurs par autrui que par eux-mêmes. Ainsi, le peuple de Syracuse, la principale ville de Sicile, on me dit qu'elle s'appelle aujourd'hui Saragosse, pressée par les guerres et ne s'occupant dans sa légèreté que du danger présent, fille de Dénis le premier tyran, il le mit à la tête de l'armée sans prendre garde qu'en le faisant si grand, cette bonne pièce-là, revenant victorieuse, passa de capitaine à roi et de roi à tyran, comme s'il n'avait pas vaincu ses ennemis mais ses concitoyens. Il n'est pas croyable que le peuple, dès lors qu'il est assujetti, tombe soudain en un si profond oubli de l'indépendance qu'il ne pourra plus se réveiller pour la reconquérir. Il sert alors avec une telle indépendance et si volontiers qu'on dirait à le voir, non pas qu'il a perdu sa liberté, mais qu'il a gagné sa servitude. Il est vrai qu'au début, on sert parce qu'on est contraint et vaincu par la force, mais ceux qui viennent ensuite servent, eux, sans regret, et font de leur plein gré ce que leurs prédécesseurs avaient fait par contrainte. C'est ainsi que les hommes naissant sous le joug, puis élevés dans la servitude, sans regarder plus avant, se contentent de vivre comme ils sont nés et ne pensent avoir d'autres biens, ni d'autres droits, que celui qu'ils ont trouvé, dans l'idée que la situation où ils sont nés est leur état naturel. Et pourtant, il n'est pas d'héritier si prodigue et si négligent qu'il ne pose un jour les yeux sur les registres de son père pour vérifier s'il jouit bien de tous les droits de sa succession. Et si l'on a bien entrepris contre lui ou contre son prédécesseur. Mais il est vrai que d'habitude, qui possède en toute chose un grand pouvoir sur nous, le porte à son plus haut point lorsqu'il s'agit de nous apprendre à servir et, comme on dit, de Mithridate, qui s'accoutuma à boire le poison, de nous apprendre à avaler et à trouver d'où le venin de la servitude. On ne peut nier que la nature ait une influence sur nous pour nous mener où elle veut et nous faire dire bien ou mal né. Mais il faut avouer qu'elle a moins de pouvoir sur nous que l'habitude. Parce que le naturel se perd, si bon soit-il, s'il n'est entretenu par l'éducation, et celle-ci nous fait toujours à sa façon, quelle qu'elle soit, en dépit de la nature. Les germes de bien que la nature sème en nous sont si maigres et si précaires qu'ils ne peuvent soutenir le moindre choc d'une éducation contraire. Ils s'entretiennent moins facilement qu'ils ne dégénèrent, ne tombent et ne s'anéantissent. Ils ressemblent aux arbres fruitiers. Ils ont tous un fruit naturel à eux, qu'ils conservent si on les laisse pousser, mais qu'ils abandonnent aussitôt pour porter d'autres fruits étrangers que les leurs, selon la greffe qu'on leur fait. Les herbes ont chacune leur propriété, leur nature particulière. Cependant, le gel, le temps, le terrain ou la main du jardinier leur ajoute ou leur enlève beaucoup. La plante qu'on a vue à tel endroit, il est impossible de la reconnaître ailleurs.
J'ai acheté une petite fleur, une vraie perle végétale, avec une tige pleine d'épines, sous un gros bouquet de pétales. J'ai travaillé dessus des heures, parfois même jusqu'aux aurores, à la greffer jusqu'à en faire une vraie plante carnivore. Il faut dire qu'à mes heures perdues, je suis un type botaniste. Chaque fois que je peux triturer une plante, je me sens comme qui dirait artiste. Je l'ai plantée devant chez moi. Si vous venez, elle vous bouffera. J'ai acheté un petit chien, une sorte de berger allemand. Un petit chiot tout mignon, tout plein, avec une gueule pleine de dents. J'ai travaillé dessus des heures, parfois même jusqu'aux aurores, à le dresser jusqu'à en faire une sorte de brontosaure. Il faut dire qu'à mes heures perdues, je suis un petit peu spécialiste en chien, figurez-vous que ça me donne l'impression d'être un peu artiste. La garde devant chez moi. Si vous venez, il vous mordra. Je suis dégoté, une petite femme que j'ai sauvée de la misère, qui passe son temps à la cuisine et qui s'occupe de mes affaires. J'ai travaillé dessus des heures, parfois même toute la nuit, à la frustrer jusqu'à en faire un vrai cas de pathologie. Il faut dire qu'à mes heures perdues, je suis un petit peu machiste. Chaque fois que je peux maltraiter ma femme, ça me donne l'impression que j'existe. C'est devenu un vrai animal. Si vous venez, elle vous recevra mal. Fait des gosses, y en a partout dans la maison. Premier s'appelle, je sais plus comment, et les autres n'ont pas de prénom. J'ai travaillé dessus des années jusqu'à ce qu'ils aient le front étroit à les dresser et les instruire. Maintenant, ce sont de vrais soldats. Faut dire qu'à force de perdre des heures, je suis devenu un petit peu fasciste. Chaque fois que je peux maltraiter des gens, ça me donne l'impression que j'existe. Les enfants sont devant ma maison. Quand vous viendrez, ils vous tueront. Les plantes carnivores, le chien qui est un vrai dinosaure, ma femme en haut de son mirador, et les enfants qui aiment la mort, alors vous me trouverez là, et je vous ouvrirai les bras.
Les rois assyriens, et après eux les rois mèdes, se montraient en public le plus rarement possible, pour faire accroire à la populace qu'ils étaient quelque part d'une autre nature que les hommes, et pour laisser rêver ceux qui ne demandent qu'à imaginer les choses dont ils ne peuvent juger de leurs propres yeux. C'est ainsi que tant de peuples qui furent assez longtemps sous la domination de l'Empire assyrien, grâce à ce mystère, s'habituaient à servir, et le faisaient d'autant plus volontiers qu'ils ne connaissaient pas leur maître, voire ignoraient s'ils en avaient un, et qu'ils redoutaient tous dans leur crédulité un homme que nul n'avait jamais vu. Les premiers rois d'Égypte ne se montraient guère sans porter tantôt un chat, tantôt une branche, tantôt du feu sur la tête, et ainsi se déguisaient et faisaient les bateleurs. De la sorte, par l'étrangeté du phénomène, ils suscitaient le respect et l'admiration de leurs sujets. Alors que si ces derniers avaient été moins sots ou moins asservis, à mon avis, ils n'auraient prêté qu'à rire. Il est lamentable de voir tous les procédés dont se servirent les tyrans des temps passés afin d'établir leur tyrannie. Tous les expédients auxquels ils eurent recours, trouvant toujours la populace si préparée qu'il leur suffisait de tendre le filet, même mal, pour qu'elle vienne s'y prendre. Ils l'ont toujours trompé de si bonne grâce qu'ils ne l'ont jamais aussi bien assujetti qu'au moment où ils s'en moquaient le plus. Que dirais-je d'une autre belle sottise que les peuples anciens prirent pour argent comptant ? Ils crurent fermement que le gros orteil de Pyrrhus, roi des Épirotes, faisait des miracles et guérissait les malades de la rate. Ils enrichirent encore ce conte en prétendant qu'après qu'on eut brûlé son cadavre, que l'orteil avait été retrouvé intact dans les cendres malgré le feu. C'est le sort du peuple de fabriquer lui-même les mensonges auxquels il se met à croire. Beaucoup les ont écrits, de telle manière qu'on voit clairement qu'ils les avaient trouvés dans les bruits qui courent et les vaines paroles de la populace. Alors qu'ils revenaient d'Assyrie et passaient à Alexandrie pour aller prendre l'Empire à Rome, Vespasien fit merveille. Il redressait les boiteux, rendait la vue aux aveugles, entre maintes et autres belles choses. Mais ceux qui y croyaient, à mon avis, étaient plus aveugles que ceux qu'il guérissait. Les tyrans eux-mêmes trouvaient étrange que les hommes puissent supporter quelqu'un qui leur faisait du mal. Ils s'efforçaient de mettre en avant la religion comme bouclier, et si possible, d'emprunter quelque accessoire à la divinité pour perpétuer leur mauvaise vie. Pour s'être ainsi moqué des gens et avoir voulu jouer à Jupiter, Salmonée en paie aujourd'hui le prix, si l'on en croit la Sibylle de Virgile qui le vit au fond des enfers.
Dans les tourments pour avoir voulu imiter les tonnerres du ciel, les feux de Jupiter, monté sur quatre coursiers, il allait branlant, haut monté, dans son poing un grand flambeau brillant. Par les peuples grecs et au milieu du marché de la ville d'Élide, haut il avait marché. Et par une telle bravade, il attentait à l'honneur qui au dieu seul appartenait. L'insensé imitait la foudre inimitable par le bruit de l'airain et la marche effroyable des sabots des chevaux du Père Tout-Puissant. Celui-ci, aussitôt, ce grand mal punissant, lança non pas un flambeau, non pas la lumière d'une torche enfumée, mais son foudre dans l'air, et de ce rude coup, d'une horrible tempête, il le fit s'écrouler les pieds par-dessus tête.
Ah! je les fouette, je leur coupe le pied. Je fais des trucs cochons avec des chaînes.
Les gens de bien, si toutefois ils s'en trouvent que le tyran puisse aimer, ont beau avoir été dans ses bonnes grâces, ont beau avoir resplendi de vertu et d'intégrité au point d'être respectés même par les plus méchants quand ils les voient de près, les gens de bien, dis-je, ne sauraient pour autant durer, et il est nécessaire qu'ils ressentent le mal commun et éprouvent la tyrannie à leurs dépens. Un Sénèque, un Burus, un Traséas, ce trio de gens de bien, le malheur en mit deux d'entre eux au contact du tyran et leur confia la gestion de ses affaires. Tous deux étant estimés de lui, tous deux chéris par lui, l'un d'eux l'avait même élevé, et cette éducation dans l'enfance était un gage de l'amitié du tyran. Ces trois-là, par leur cruelle mort, témoignent assez du peu d'assurance qu'on doit avoir dans la faveur d'un mauvais maître. Et, à la vérité, quelle amitié peut-on attendre de celui qui a le cœur si dur qu'il ait un royaume qui ne fait que lui obéir et qui s'appauvrit et détruit son empire parce qu'il ne sait pas s'aimer lui-même. Or, si l'on répond que ceux-là ont connu de telles infortunes parce qu'ils ont eu une vie bonne, qu'on regarde attentivement son entourage, et l'on verra que ceux qui ont été dans ses bonnes grâces et s'y sont maintenus par de mauvais moyens n'ont pas duré plus longtemps, qui a entendu parler d'un amour si absolu, d'une affection si constante, qui a jamais vu un homme aussi résolument épris de sa femme que celui-là envers Poppée? Or, elle fut par la suite empoisonnée de ses mains. Sa mère, Agrippine, avait tué son mari Claude pour le faire accéder à l'Empire, pour l'obliger. Elle n'avait jamais rechigné à rien faire ni à tout supporter. Or, son fils même, son nourrisson, l'empereur, fait de sa main, après lui avoir souvent fait défaut, lui ôta finalement la vie. Tout le monde alors déclara qu'elle aurait amplement mérité cette punition, si ça avait été par les mains de tout autre que celui à qui elle avait donné la vie. Qui fut jamais plus facile à manier, plus simple, ou pour mieux dire, plus franchement nié que l'empereur Claude ? Qui fut jamais plus trompé par une femme que lui par Messaline ? Il l'a remis finalement aux mains du bourreau. La simplicité, s'ils en ont, est toujours le lot des tyrans quand il s'agit de bien faire. Mais je ne sais comment leur esprit finit par s'éveiller pour user de cruauté même envers leurs intimes. On connaît le beau mot de cet autre qui, voyant découverte la gorge de la femme qu'il aimait le plus et sans laquelle il semblait ne pouvoir vivre, la caressa de cette belle parole. « Ce beau cou sera bientôt coupé si j'en donne l'ordre. » Voilà pourquoi la plupart des tyrans de l'Antiquité étaient d'ordinaire tués par leurs favoris. Ceux-ci, ayant connu la nature de la tyrannie, ne pouvaient être aussi certains de la volonté du tyran que défiant envers sa puissance. C'est ainsi que Domitien fut tué par Étienne, Commode par une de ses amies, Antonin par Macrin, et il en alla de même pour presque tous les autres. C'est pour cela sans doute que le tyran n'est jamais aimé et n'aime jamais. L'amitié est un nom sacré, une chose sainte. Elle ne saurait exister qu'entre gens de bien et ne s'établit que par une estime mutuelle. Elle ne s'entretient par temps, par les bienfaits, que par la bonne vie. Ce qui fait un ami sûr, c'est la connaissance de son intégrité. Le bon naturel, la foi et la constance répondent pour lui. Il ne peut y avoir d'amitié là où est la cruauté, là où est la déloyauté, là où est l'injustice. Entre les méchants, quand ils s'assemblent, il y a complot, mais il n'y a pas compagnie. Ils ne s'aiment pas. Ils se craignent les uns les autres. Ils ne sont pas amis. Ils sont complices.
Nous sommes partis par une nuit plutôt nocturne. Nous quatre Dudu, le grand Victor et l'amnésique. Nous avions collé des semelles crêpes à nos cothurnes. Il y avait les outils, la main sur Monseigneur, chalumeau oxydrique. J'étais rencardé sur un boulon plutôt pépère. 3 kilos de diane, de la perle et puis du jonc. C'est pas si souvent que l'on dégote une bonne affaire. Ce soir entre tous, fallait pas faire les cornichons. Attention, garez-vous, ce soir on les attaque. Les bourgeois, les salauds, va bien falloir qu'ils raquent. On n'est pas sur le tas pour jouer de figurines. On va prendre un gros coffre et lui percer le vide. On perce. Grand Victor prend la chignole. Toi, Dudu, fais pas le mariole. Tu la boucles ou bien sans ça. On perce. La musique à la courante. On va le mettre en 40. Ma parole, c'est bien détente. Perverse.
Si ces crétins continuent, je les renvoie dans la rue avec un coup de pied dans le pouls.
Ça verse. J'allume mon spétard, retire le coffre fort, il va souffrir. On va le mettre s'envolir. On perce. Nous sommes sortis avec du fric plein nos chaussettes.
Ce vieux coffre fort était bourré comme un marron.
Il y avait de quoi s'offrir de la tortore et des fillettes. Mais au coin de la rue,
plein du nul qui s'écrit, les mecs, on est marrons.
Les poulets grouillaient comme un houdon un jour de foire. L'amnésique ému s'est mis à pleurer comme un veau. Il ne manquait plus à la basse-cour que des canards. Et voilà l'aurore qui arrive avec le Figaro. C'est fini, les poteaux, ce soir on joue ouf. Plus d'osier, plus de filles et surtout plus de bouffe. Les barons de la cache referment sur nous. Mais demain, pour ma part, je commence à faire un trou. On perce. J'ai démonté mon plumard pour y prendre une petite barre. Et du matin jusqu'au soir, on perce. Dans la cellule à
côté, la musique en train de gratter, il va bosser jusqu'à ce que ça traverse.
Le grand Victor, ce vieux feignant, reste sur son pieu tout le temps, à chanter le marché perçant,
ça verse. Spécialiste du boulot, si on a un petit peu de bon, sûr qu'on sera sorti bientôt, on perce. Nous avons creusé pendant 2 ans, sauf le dimanche. Y'a rien de plus dur que cette saloperie de béton. Nous quatre dudules, on peut pas dire qu'on soigne des manches. Mais j'aimerais mieux faire comme les marchands de Gruyère, des trous dans du fronton. Et puis un beau jour, en limant le dernier bout de ferraille, par le trou du mur, j'ai vu soudain luire le beau blond. Vrai, ça fait plaisir, un résultat quand on travaille. C'est la récompense des gars honnêtes. Et ça, c'est bon.
Attention, les motos, ce soir on met les voiles. Attachons bout à bout nos jolis draps de toile. C'est le moment de montrer qu'on est le roi du sport. On était bien soigné, mais son ligne d'or, on perce.
Plan Victor descend dernier, comme ça s'il fait tout casser, nous autres on sera passé, on perce. On a de la peine, mes amis, car tout le jour d'aujourd'hui, il tombait une de ces pluies averses.
Ça y est, nous voilà sauvés, mais maintenant il faut foncer, y a un job à préparer.
Commerce. Pendant que j'étais au mitard, j'ai monté un coup de ma star, et demain soir sans retard, on perce.
Alors,
bonsoir.
Quand bien même la chose serait possible, il n'en serait pas moins difficile de trouver chez un tyran un amour assuré. Parce qu'étant au-dessus de tous et n'ayant point de compagnon, il est déjà au-delà des bornes de l'amitié, qui se nourrit de l'égalité. Elle ne veut jamais boiter et marche toujours d'un pas égal. Voilà pourquoi il y a bien, ce qu'on dit, une certaine confiance lorsque du partage de butin entre les voleurs, dans la mesure où ils sont père et compagnon. Et s'ils ne s'aiment pas les uns les autres, du moins ils se craignent, car ils veulent éviter d'amoindrir leurs forces en se désunissant. Mais ceux qui sont les favoris du tyran ne peuvent fonder sur lui aucune assurance, dans la mesure où il a appris d'eux-mêmes qu'il peut tout, et qu'il n'y a ni droit ni devoir qui l'oblige. Il est habitué à ce que sa volonté soit la raison et à n'avoir aucun compagnon, mais à être le maître de tous. Dès lors, n'est-ce pas pitié vraiment que devant tant d'exemples manifestes, devant un danger si présent, personne ne veuille se faire sage aux dépens d'autrui, et que de tant de gens s'approchant si volontiers des tyrans, il n'y en ait pas un seul qui soit assez avisé et assez courageux pour leur dire ce que le renard, d'après le conte, dit au lion qui faisait le malade. « J'irai bien te voir dans ta tanière. Seulement je vois beaucoup de traces de bêtes qui avancent vers toi, mais n'en vois pas une seule qui en revient. »
Que tu allumes au creux d'un lit, pauvre ou rupin, pour le plaisir qui s'y consume, dans la toile ou dans le satin, pour les enfants que tu ranimes au fond des dortoirs chérubins, pour les pétales anonymes comme la rose du matin. Thank you, Satan. Pour le voleur que tu recouvres de ton chandail tendre et rouquin, pour les portées que tu lui ouvres sur la tanière des Rupins, pour le condamné que tu veilles à l'abbaye du Mont-en-l'Air, pour le rhum que tu lui conseilles et le mégot que tu lui sers. Thank you, Satan. Que tu sèmes dans le rebord des assassins, et pour ce cœur qui va quand même dans la poitrine des putains, pour les idées que tu maquilles dans la tête du citoyen, pour la prise de la Bastille, même si ça ne sert à rien.
Qui s'exaspère à retrouver le doux agneau, pour le pinard élémentaire qu'il prend pour du château Margaux, pour l'anarchiste à qui tu donnes les deux couleurs de ton pays, le rouge pour naître à Barcelone, le noir pour mourir à Paris. Thank you Satan. Thank you Satan.
Pour la sépulture anonyme que tu fis à Monsieur Mozart, sans croire ni rien sauf pour la frime, un chien croque-mort du hasard. Pour les poètes que tu glisses au chevet des adolescents, quand poussent dans l'ombre complice des fleurs du mal de 17 ans. Pour la péché que tu fais naître au sein des plus raides vertus, et pour la nuit qui va paraître au coin du lit où tu n'es plus. Pour les ballons que tu fais pêtre dans la frais comme des moutons, pour ton honneur à ne paraître jamais dans la télévision. Pour tout cela et plus encore, pour la solitude des rois, le rire à la tête de mort, le moyen de tourner la loi. Et qu'on ne me fasse pointer et que je chante pourtant bien, dans ce monde où les muselières ne sont plus faites pour les chiens. Thank you.
Je ne peux pas oublier la guerre. Je le voudrais. Je passe des fois deux ou trois sans y penser. Et brusquement, je la revois. Je la sens, je l'entends, je la subis encore et j'ai peur. Ce soir est la fin d'un beau jour de juillet. La plaine sous moi est devenue toute rousse. On va couper les blés. L'air, le ciel, la terre sont immobiles et calmes. 20 ans ont passé. Et depuis 20 ans, malgré la vie, les douleurs et les bonheurs, je ne me suis pas lavé de la guerre. L'horreur de ces 4 ans est toujours en moi. Je porte la marque. Tous les survivants portent la marque. J'ai été soldat de 2e classe dans l'infanterie pendant 4 ans, dans des régiments de montagnards, avec MV, qui était mon capitaine. Nous sommes à peu près les seuls survivants de la 1e-6e compagnie. Nous avons fait les Éparges, Verdun, Vaux, Noyon, Saint-Quentin, le chemin des Dames, l'attaque de Pinon, Chevrillon, le Kemmel. La 6e compagnie a été remplie 100 fois. Et 100 fois d'hommes. La 6e compagnie était un petit récipient de la 27e division. Comme un boisseau à blé. Quand le boisseau était vide d'hommes, enfin, il n'en restait plus que quelques-uns au fond, comme des grains collés dans les rainures. On le remplissait de nouveau avec des hommes frais. On a ainsi rempli la 6e compagnie 100 fois et 100 fois. Et 100 fois, on est allé la vider sous la meule. Nous sommes de tout ça les derniers vivants, V et moi. J'aimerais qu'il lise ces lignes. Il doit faire comme moi le soir, essayer d'oublier. Il doit s'asseoir au bord de sa terrasse, et lui, il doit regarder le fleuve vert et gras qui coule en se balançant dans les bosquets des peupliers. Mais tous les deux ou trois jours, il doit subir comme moi, comme tous. Et nous subirons jusqu'à la fin. Je n'ai pas honte de moi. En 1913, j'ai refusé d'entrer dans la société de préparation militaire qui groupait tous mes camarades. En 1915, je suis parti sans croire à la patrie. J'ai eu tort, non pas de ne pas croire, de partir. Ce que je dis n'engage que moi. Pour les actions dangereuses, je ne donne d'ordre qu'à moi seul. Donc je suis parti. Je n'ai jamais été blessé, sauf les paupières brûlées par les gaz. En 1920, on m'a donné puis retiré une pension de 15 francs tous les 3 mois avec ce motif « léger déchet esthétique ». Je n'ai jamais été décoré, sauf par les Anglais et pour un acte qui est exactement le contraire d'un acte de guerre. Donc, aucune action d'éclat. Je suis sûr de n'avoir tué personne. J'ai fait toutes les attaques sans fusil, ou bien avec un fusil inutilisable. Tous les survivants de la guerre savent combien il était facile, avec un peu de terre et d'urine, de rendre un lebel pareil à un bâton. Je n'ai pas honte. Mais à bien considérer ce que je faisais, c'était une lâcheté. J'avais l'air d'accepter. Je n'avais pas le courage de dire « je pars à l'attaque ». Je n'ai pas eu le courage de déserter. Je n'ai qu'une seule excuse, c'est que j'étais jeune. Je ne suis pas un lâche. J'ai été trompé par ma jeunesse. Et j'ai été également trompé par ceux qui savaient que j'étais jeune. Ils étaient très exactement renseignés. Ils savaient que j'avais 20 ans. C'était inscrit sur leur registre. C'étaient des hommes, eux, vieillis, connaissant la vie et les roublardises, et sachant parfaitement bien ce qu'il faut dire aux jeunes hommes de 20 ans pour leur faire accepter la saignée. Il y avait là des professeurs, tous les professeurs que j'avais eus depuis la classe de 6e, des magistrats de la République, des ministres, le président qui signa les affiches, enfin tous ceux qui avaient un intérêt quelconque, à se servir du sang des enfants de 20 ans. Il y avait aussi, je les oubliais, mais ils sont très importants, les écrivains qui exaltaient l'héroïsme, l'égoïsme, la fierté, la dureté, l'honneur, le sport, l'orgueil, des écrivains qui n'étaient pas tous vieux de corps, mais des jeunes aussi qui étaient devenus vieux par l'ambition et qui trahissaient la jeunesse par désir d'académie, ou tout simplement qui trahissaient la jeunesse parce qu'ils avaient des âmes de traîtres et qu'ils ne pouvaient que trahir. Ceux-là ont retardé mon humanité. Je leur en veux surtout parce qu'ils ont empêché que cette humanité soit en moi au moment précis où elle m'aurait permis d'accomplir des actes utiles. Enfin, ce qui est fait, et ce qui est à faire reste à faire. Le temps est pour tout, même ce soir, pour regarder cette immense plaine qui s'en va toute d'une traite, depuis le pied de ma terrasse jusqu'au fleuve. L'été de tout le jour s'est appesanti sur les blés. La chaleur sans la farine. 20 ans. Depuis 20 ans, j'ai vu se succéder ces moissons et les vendanges de la terre, la feuillaison des arbres, les moissons et les vendanges, les feuillaisons de mon corps. 20 ans. Et je n'ai pas pu oublier. La récolte de raisins est extraordinaire cette année. Les vignes sont lourdes de fruits. Non, cet automne silencieux qui ressemble tant à l'été par son épaisse chaleur et cette immobilité gluante dans laquelle toutes les végétations de la terre sont prises, on entend craquer les échalas qui soutiennent la vendange. Les treilles se sont affaissées et l'on ne peut plus passer dessous. Si l'on s'y glisse, votre visage est tout de suite pris dans les grosses mains des grappes blanches si gonflées que de minuscules gouttes de rosée de sucre suant de chaque grain les illuminent d'un velours d'arc-en-ciel entremêlé. Les raisins sont tant entassés dans les corbeilles que, pendant qu'on les charrie en charrette, puis qu'on les porte dans les maisons, elles ruissellent déjà de vin, le coulant en ruisseaux sur les routes, dans les rues, sur les seuils, dans les couloirs, dans les cours intérieures, sur les escaliers des caves, sur les bras qui les haussent vers les pressoirs. C'est la paix. Je n'ai honte d'aucune paix. J'ai honte de toutes les guerres. Je trouve que personne ne respecte plus l'homme. De tous les côtés, on ne parle plus que de dicter, d'obliger, de forcer, de faire servir. On dit encore cette vieille dégoûtante baliverne, la génération précédente doit se sacrifier pour la génération future. On le dit même de notre côté, ce qui est grave, si encore nous savions que c'est vrai, mais par expérience, nous savons que ça n'est jamais vrai. La génération future a toujours des goûts, des besoins, des désirs, des buts imprévisibles pour la génération présente. On se moque des 10 heures de bonne aventure. Il faut sinon se moquer, en tout cas se méfier des bâtisseurs d'avenir. Surtout quand pour bâtir l'avenir des hommes à naître, ils ont besoin de faire mourir les hommes vivants. L'homme n'est la matière première que de sa propre vie. Je refuse d'obéir, Jean Giono. Et voici la fin de cette émission des mots d'ici, des mots d'ailleurs, en tout cas pour cette émission de novembre, qui a été conçue en grande partie sur les discours de, le discours de la servitude par Nathalie Vautier. Discours de la servitude de la Boétie, évidemment. C'est Nathalie Vautier qui est là ce soir à nos côtés, en compagnie de notre ami Christophe Becquereau à la technique, ne l'oublions jamais. Cet intarissable sondier insondable.
James nous a lu les écrits pacifiques de Jean Giono. Et nous avons aussi lu la fable de La Fontaine, le chien et le loup.
Juste une petite rectification, ce sont les écrits pacifistes de Jean Giono.
Pardon. Vous avez entendu un extrait du Roi à New York de Charlie Chaplin, un extrait du Roi danse, la musique de Pierre et le loup de Prokofiev, Léo Ferré, les impromptus de Schubert, les amis de ta femme, Georges Brassens, Lord Bishop, les joyeux urbains, le grand orchestre du Splendide, les frères Jack, Dionysos et Melanoise Escape. Nous nous retrouvons le 27 décembre pour la prochaine émission.
Et nous nous retrouverons encore quelques temps, tant que souffle un vent de liberté. Et si vous avez l'occasion de refuser d'obéir à des ordres idiots, n'hésitez pas une seule seconde. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Vous avez toujours le choix de laisser entrer la lumière ou de garder les volets fermés.